France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
De l'impunité de chef d'État malgré le droit international. Vous avez 4 heures. Nous, on aura un petit peu moins avec Philippe Sands qui est avec nous ce soir. Louise Baudet va se demander si tous les chefs d'État réputés infréquentables qui sont sur la photo en Chine ne sont pas de plus en plus forts grâce à Trump. Le reportage est en Cisjordanie ce soir sur l'un des 900 checkpoints tenus par des soldats israéliens.
Ils n'ont pas juste le contrôle sur notre temps, mais veulent nous envoyer un message. Ils disent « Nous avons le contrôle sur votre liberté ». Quand tu rentres, quand tu sors, c'est nous qui décidons.
Alice Moreno pour le reportage autour de 18h38. Ce soir, vous apprendrez aussi que le drapeau de l'armée de l'air finlandaise est une croix gammée. Il était peut-être temps que ça change. On attend les détails de Guillaume Oda dans Sous les radars. Et puis Cyril Sauvageau écoute swinguer la Nouvelle-Orléans 20 ans après Katrina. Le monde est vaste. Les amis, on n'a qu'une heure. Allons-y.
Ancien chef d'État, qu'importe. Crime commis pendant qu'il était chef d'État, qu'importe. Il doit en répondre. Ça, c'est une décision considérable. Cela veut dire que l'ancien dictateur n'est pas à l'abri des crimes qu'il a commis.
On est en novembre 1998, c'est Robert Badinter qui parle, vous l'avez reconnu. C'est au moment où l'impunité du général Pinochet qui était arrêté à Londres lui est refusée. L'histoire, elle est très très longue après ce moment judiciaire qui était quand même un moment important. Bonsoir Philippe Sands.
Bonsoir, ravi d'être avec vous.
Nous aussi, on est ravis, vous êtes avocat international évidemment. Vous êtes grand spécialiste de ces questions de qualification, notamment crimes contre l'humanité, génocide ou pas. Vous êtes professeur de droit à l'University College de Londres. Vous êtes aussi évidemment écrivain et entre Les mains, j'ai 38 rue de Londres, de l'impunité, Pinochet et le nazi de Patagonie, publié chez Albin Michel. Vous nous emmenez donc sur la trace de ces deux hommes, à la fois Pinochet, dont on connaît les crimes, mais aussi ce nazi qui était un vrai de vrai. Hein. C'est lui qui a inventé et transporté les fameux camions destinés à gazer les juifs d'un lieu à l'autre. On va vite comprendre comment ces histoires s'entrecroisent. Mais Philippe Sand, ce qui m'a le plus interpellé, c'est de l'impunité. C'est le sous-titre, parce que ces deux hommes sont morts dans leur lit. Est-ce qu'il faut désespérer alors ?
Non. Pas tout à fait. Finalement, Pinochet a été arrêté à Londres en octobre 1998. La Chambre des Lords, la Cour suprême britannique, a levé son immunité pour la première fois, mm-hmm. un moment tout à fait historique. Mm-hmm. Et il a passé un an et demi détenu en Angleterre. Il est rentré finalement un peu plus tôt que certains espéraient. Mais avec sa rentrée en Chili, son immunité a été levée. Mmh. Et pour la première fois en 50 ans, les procès ont commencé.
Mmh. Est-ce que vous diriez que c'est au fond parce que il y a eu un juge Garçon en Espagne qui a décidé de l'arrestation de Pinochet à Londres, qu'aujourd'hui Vladimir Poutine sort peu de chez lui, sauf pour aller en Chine où il est en ce moment, que Netanyahou sort pas de chez lui, sauf pour aller aux États-Unis où il est tranquille. Est-ce qu'au fond, dans un coin de leur tête, c'est Pinochet qu'ils ont, donc ça aura au moins servi à ça?
C'est Pinochet, et il faut aller un peu plus loin en arrière, en 1945, et ce moment reconnu, le procès de Nuremberg, le moment mm-hmm. où Robert Jackson, le procureur, écrit à son président, Harry Truman, en juin 1945, il écrit « L'idée d'immunité est un relique obsolète, on laisse à part, on continue sans ça ». Et avec ça, les portes se sont ouvertes. D'abord, tribunaux internationaux, avec Nuremberg et Tokyo, et après pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et plus tard avec les tribunaux mmh. internes. C'est seulement, par exemple, il y a 2-3 semaines que la Cour de cassation à Paris a statué que l'ex-président Bachir al-Assad n'avait pas d'immunité pour les crimes de torture.
On va y revenir, bien sûr, Philippe Sands, mais en vous lisant, et Dieu sait que vous avez détaillé vraiment la procédure autour de Pinochet, pas seulement d'ailleurs parce qu'on viendra, je l'oublie pas, Walter Haus, ce nazi de Patagonie qui est aussi dans votre livre, ce qu'on comprend aussi, c'est à quel point la politique est plus forte que le droit. On sait bien qu'il y a eu un accord entre Blair et le Chili pour faire rentrer Pinochet. Le Chili lui-même, au fond, a protégé Pinochet, même quand il est rentré, c'est aussi comme ça qu'il est mort dans son lit. Si on veut aller plus loin, ça se passe comme ça dans tous les pays. L'Espagne n'a pas soldé le franquisme non plus. Les États-Unis n'ont pas voulu faire un procès à George Bush alors qu'ils auraient pu. on a l'impression parfois que le droit international est aussi freiné, y compris par les pays les plus concernés.
Absolument. Regardez, la politique et le droit vont toujours main en main. Ça a toujours été comme ça. Moi, quand j'étais jeune chercheur, il y a 40 ans, à l'université de Cambridge, j'étais en contact avec un grand prof de droit de l'histoire du droit anglais, Sir John Baker. Et parfois, il me posait la question, tu travailles sur quoi, Philippe? Et je racontais un peu sur question d'immunité, question de responsabilité. Il touchait sa barre, il me disait, ah oui, on avait un problème équivalent en droit anglais en 1472, on a mis 275 ans pour s'en sortir. C'est la même chose en droit français, ça prend du temps, on est tout au début, ça a commencé assez récemment, en 1945, c'est un jeu à long terme.
Alors, vraiment très très long terme, est-ce que ça veut dire que tout ce qui nous occupe aujourd'hui, et ce qui nous occupe, c'est Vladimir Poutine, c'est Benjamin Netanyahou, chacun dans son genre, si j'ose dire. Donc ce que vous dites, c'est de toute façon, patience et longueur de temps, en fait,
patience,
c'est ça que ça veut dire ?
Patience, on reste sur nos principes. Regardez, quand M. Pinochet a voyagé à Londres, mi-octobre 1998, il s'est dit, je suis protégé par Madame Thatcher, je suis protégé parce que j'ai assisté les Britanniques pendant la guerre des Malouines. Il s'attendait pas du tout, c'était le grand choc. Je raconte, c'est une histoire, c'est un livre très personnel. J'ai rencontré par exemple l'interprète qui dit à Monsieur Pinochet le soir du 16 octobre, vous êtes sous arrestation pour crime contre l'humanité et pour génocide. Et elle m'a raconté le choc total d'un vieux monsieur dans son lit, dans son pyjama. On ne sait pas ce qui va se passer.
Ouais, juste un mot quand même pour ne pas oublier Walter Roth. On disait que la politique aidait ce genre de personnage et c'est encore le cas aujourd'hui avec les personnages qui nous occupent. Mais avec Walter Roth, c'est presque pire, j'ai envie de dire. Enfin, ce type a travaillé pour l'Allemagne de l'Est quand même. C'était un nazi patenté, réfugié, qui a servi d'espion pour l'Allemagne de l'Est. Donc là aussi, on utilise ces gens-là. On sait donc à ce moment-là qu'on ne les jugera jamais, qu'ils ne seront jamais jugés au regard de l'histoire. Ce qui est intéressant avec ce gars-là, c'est que des allers-retours, il y en a eu plein. Il y a même eu des questionnements vis-à-vis d'Israël. Est-ce qu'on le récupère? Est-ce qu'on ne le récupère pas? Et ça a duré des décennies.
Ah, la question est encore bouleversante.
Et valable aujourd'hui encore.
La question est bouleversante parce qu'il a travaillé même pour l'Israël entre 1948 et 1950. Il s'est fait arrêter finalement en 1963. Processus d'extradition et finalement la Cour suprême du Chili dit non, on a une période de prescription de 15 ans, ces crimes ont eu lieu en 41-42, nous sommes 63, on n'a pas d'extradition, il rentre chez lui à Punta Arenas en Patagonie dans le sud, il reprend son travail comme gérant de pêcherie de crabes, mais 11 ans plus tard, son ami Augusto Pinochet devient président. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est possible que Pinochet a travaillé avec ce vieux nazi?
Je ne sais pas si on garde le suspense pour les gens qui nous écoutent, mais la démonstration est une belle démonstration. En effet, j'ai juste envie de dire que c'est bien utile parfois d'avoir un nazi sous la main. C'est exactement ce qu'a dû se dire Pinochet à ce moment-là.
Ah ben, il a pris l'assistance de M. Rauf, parce que M. Rauf savait comment faire les choses. Exactement. Le livre s'appelle 38 rue de Londres, parce que c'est les lieux à Santiago, c'est un centre de torture, où Rauf a interrogé.
Philippe Sands, vous l'avez dit, effectivement, il y a toujours dans vos livres des allers-retours entre à la fois la grande et la plus petite histoire, entre votre propre vie et la vie de ces personnages que vous maniez. Ici, c'est même assez bouleversant, puisque vous découvrez au moment de votre enquête que l'une des victimes qui sert de fil à tirer pour l'Espagne et pour arrêter Pinochet est une connaissance de votre belle-mère. C'est dire comme les fils se tiennent. Vous avez beaucoup de voisins aussi à qui vous pouvez parler régulièrement. Mais vous avez raison. Il s'est passé quelque chose en 1945, mais on a l'impression aujourd'hui que tout cet ordre-là est en train d'être détruit, pas seulement celui du droit international, mais celui du multilatéralisme, celui de l'ordre mondial tel qu'on le connaissait à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui nous dit que le droit international inventé en 1945 n'est pas aussi en train de voler en éclats pour les personnages, encore une fois, qui nous occupent, que sont Poutine ou Netanyahou ?
C'est clair qu'on passe un moment très difficile. C'est clair qu'il y en a certains en pouvoir qui voudraient détruire ce qui a été créé en 1945. Le principe que la souveraineté de l'État n'est pas absolue, qu'il y a des limites sur le traitement des individus et de groupes. Mais comme je redis encore une fois, c'est un projet à long terme. Il y a aussi beaucoup de gens qui militent pour le droit international. Et au même moment qu'on a ces difficultés, il y a une situation où l'île Maurice et le Royaume-Uni se mettent en accord pour régler l'affaire des Chagossiens qui ont été déportés entre 68 et 73. Et il y a quelques semaines, dans la ville de Lviv, en Ukraine, les États européens et le Conseil d'Europe annoncent la création du premier nouveau tribunal pour crimes d'agression depuis 1945 en ce qui concerne l'Ukraine. Alors, c'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, c'est complexe.
Où est-ce qu'on en est justement? Parce que c'est vous qui aviez lancé cette idée de tribunal spécial pour crimes d'agression sur l'Ukraine, que vous appeliez de vos voeux effectivement pour juger Vladimir Poutine. Est-ce qu'au fond, on pourra à un moment, d'un coup, dire c'est prêt? Donc on peut juger cet homme, on peut le faire maintenant, dans les 48 heures.
Le statut du tribunal est adopté, signé. Maintenant, on est en train de nommer les juges, les procureurs. D'ici 6 mois, il y aura certainement un tribunal et il va commencer son travail pour M. Poutine, pour ceux autour de lui. Il y a cette possibilité et on sait déjà 2 choses. D'abord, il y a certains lieux où M. Poutine ne voyage pas, Afrique du Sud,
absolument,
par exemple.
Ouais.
Deuxièmement, dans ce contexte, le travail a vraiment commencé pour un tribunal spécial. Et on a vu, par exemple, avec M. Duterte du Philippines, c'était aussi inattendu. On ne sait pas ce qui va se passer.
Est-ce que ça a un sens de faire comme l'a fait récemment la Suisse? Alors la Suisse, pays particulier, pays neutre, de dire à Vladimir Poutine, puisqu'il faut absolument qu'il y ait des négociations, vous savez quoi? Si vous venez, on vous jure qu'on ne vous arrêtera pas. Est-ce que ça a un sens, ça, pour vous, Philippe Sands, ou pas?
Ça reprend encore une fois la relation entre le paix et la justice. Alors, une deuxième chose qu'on sait avec certitude, c'est que les Russes ont dit aux Américains et aux Ukrainiens, si vous voulez que des négociations commencent pour la paix en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, on enlève de la table toute discussion de justice pour crimes commis par la Russie. Pour l'Ukraine, c'est pas possible. C'est impossible d'imaginer un tel truc. Et donc, comme beaucoup d'États, comme en Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, question d'équilibrer le désir pour la paix d'un côté et le désir pour la justice de l'autre côté. Et c'est un équilibre difficile à trouver.
Même équilibre s'agissant d'Israël en ce moment. Au fond, chacun dans son genre, si je puis le dire comme ça. Vous êtes de ceux, et c'était presque étonnant, Philippe Sand, vous qui êtes un grand spécialiste de droit international, qui justement ne voulait pas disserter des heures sur génocide ou pas génocide. Au fond, vous dites qu'il ne faut pas se focaliser sur ce terme-là. Les mots ont quand même un sens, en fait. Est-ce que ça permet au débat d'avancer plus sereinement si on se focalise plus sur le mot, c'est ça l'idée?
Les mots sont importants et c'est très légitime pour les gens de dire oui, c'est un génocide ou non, ce n'est pas un génocide. Il y a une raison très pratique pour laquelle je ne rentre pas dans ce débat particulier. Le prochain procès devant la Cour internationale de justice sur question de génocide commencera au mois de janvier 2026. La Gambie contre la Birmanie, les allégations contre la communauté des Rohingyas. Je suis conseil pour la Gambie et les juges n'aiment pas quand leur conseil se met à parler ouvertement. Mais je viens de faire un très long podcast avec l'Américain Ezra Klein pour le New York Times.
C'est à lui qu'il dit ça. C'est avec lui que vous faites ce différence.
Absolument. Ce que j'ai dit, que c'est clair que le 7 octobre, il y a eu des crimes. C'est clair qu'il y a des crimes et des atrocités aujourd'hui au Gaza et que si les Israéliens ne font pas attention, ça facilitera la tâche de prouver ces crimes devant les cours internationaux. Ils ont un problème.
Philippe Sands, vous dites dans votre livre, c'est un passage que beaucoup ont relevé mais qui est très drôle, que vous avez failli, si je puis dire, défendre Pinochet et que votre femme vous a dit absolument, t'as qu'à le faire si tu veux, mais à ce compte-là, je divorce. Vous avez une théorie, théoriquement, qui est celle de la file de taxi. Quand on est avocat, ben, on choisit pas, en fait, on est comme dans la file de taxi. Est-ce que cette théorie de la file de taxi marcherait si vous étiez sollicité pour un Vladimir Poutine ou pour un Benjamin Netanyahou?
La conversation avec ma femme, ça s'est passé ici à Paris, au cimetière de Pantin, au moment des funérailles de mon grand-père. En fait, le principe du chauffeur de taxi, the cab rank principle, s'applique pour les procès devant les tribunaux britanniques. Alors si Monsieur Poutine...
Comment vous défilez?
Non, mais si Monsieur Poutine est arrêté à Londres, et ses avocats prennent contact avec moi et disent « on veut que vous défendez Monsieur Poutine », j'ai un problème parce que le principe s'applique dans ce contexte. Mais s'il arrêtait ailleurs, et c'est un procès international, le principe de chauffeur de taxi ne s'applique pas. C'est les Britanniques avec leurs règles très spéciales.
Allez, à bon entendeur, hein, donc s'il y a projet d'arrêter Vladimir Poutine, attention, parce que vous risquez de mettre Philippe Sands dans l'embarras. Merci beaucoup. Ça s'appelle 38 rue de Londres de l'impunité, Pinochet et le nazi de Patagonie. C'est publié chez Albin Michel et c'est traduit de l'anglais par Christophe Bellon. Merci beaucoup, Philippe Sands. Merci vraiment.
Un grand merci à vous.
À très vite, bien sûr. La suite, c'est Louise Baudet. Louise qui remet le monde à l'endroit.
Donald Trump, ses droits de douane, sa logique de puissance unilatérale et s'il est-il le meilleur agent de Pékin.
Et c'est juste après ça. Hein. Shy Girl, c'est un vrai coup de frais sur le reggae. C'est aussi la fille de Paul Cook, figurez-vous, le batteur des Sex Pistols. Voilà, c'est dit, elle est aussi dans la playlist de France Inter. Louise Baudet remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et Louise, vous nous expliquez pourquoi la Chine peut dire merci à Donald Trump et ses droits de douane.
Bah oui, le méchant, c'est lui, et les gentils sont à Pékin. Bon, c'est faux, bien sûr, hein, très caricatural, mais Donald Trump, sa brutalité, son unilatéralisme qui ne connaît ni amis ni partenaires, au mieux des auxiliaires, Donald Trump est le parfait contrepoint de la promesse chinoise. Celle d'une autre gouvernance mondiale en rupture avec l'hégémonisme occidental, une gouvernance plus juste et raisonnable, a décrit ce matin Xi Jinping, au rebours de l'actuelle mentalité de guerre froide et de confrontation entre blocs. Jamais le président chinois n'a cité les États-Unis, mais c'est bien sûr l'Amérique trumpiste qui était visée devant la kyrielle de dirigeants eurasiatiques réunis à Tianjin, près de Pékin, sommet de l'OCS, où les reporters sur place racontent que chaque réverbère est orné de bannières promettant en chinois, en russe et en anglais une coopération gagnant-gagnant.
Donc le gagnant-gagnant, l'inverse des droits de douane imposés par Donald Trump.
Eh oui, ces droits de douane qui fâche, pire, humilie un pays jusqu'ici allié de l'Amérique, l'Inde, infligée de 50% de taxes douanières depuis la semaine dernière. De quoi la réconcilier avec la Chine. Narendra Modi et Xi Jinping ont affiché hier une bien belle entente en dépit des contentieux territoriaux et d'une rivalité historique. Et les droits de douane de Donald Trump se révèlent tout aussi contre-productifs en Amérique du Sud, ex-précaré américain, où l'influence chinoise gagne du terrain. Depuis le 1er août, plusieurs produits brésiliens sont taxé augmenter eux aussi à hauteur de 50%. Cette fois, Donald Trump vole au secours de son allié politique Jair Bolsonaro, dont le procès pour tentative de coup d'État entre dans sa phase finale demain. Sauf que cette ingérence manifeste qui vise à affaiblir le président Lula à un an de la présidentielle, eh bien elle provoque l'effet inverse. Lula se refait une santé politique, l'indépendance brésilienne en bandoulière et la Chine s'engouffre dans la brèche. Elle vole au secours du café brésilien en autorisant les importations de café sur son sol, décision rare de Pékin, d'habitude très soucieux de protéger son marché intérieur.
Et cette histoire-là, Louise, elle montre que la Chine s'investit dans le soft power abandonné par Donald Trump.
Oui, et ce n'est pas nouveau. Hein. Voilà des années que Pékin investit les instances multilatérales, notamment l'ONU et ses agences, pour y promouvoir sa vision de l'ordre international. Il y a aussi les alliances régionales, l'OCS, on vient d'en parler, les sommets des BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, censés renforcer la voix du Sud global contre celle des Occidentaux et du G7. Tout le contraire de ce que fait Donald Trump, obsédé par la réduction des coûts pour le contribuable américain, et convaincu que les organisations internationales sont au mieux inutiles, au pire nocives. En comparaison, la Chine se présente en acteur fiable à l'ONU, championne du multilatéralisme et pôle de stabilité dans un monde incertain.
Donc la Chine championne du soft power et aussi du hard power quand même.
Bah oui, bien sûr, hein. Taïwan et les pays voisins de la mer de Chine en savent quelque chose. Pékin manie les deux leviers de l'art politique selon Machiavel, la ruse et la force. Et le régime va en faire la démonstration après-demain, grand défilé militaire le long de l'immense avenue de la paix éternelle qui traverse la place Tiananmen. Célébration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la capitulation japonaise et étalage de la force de frappe militaire du régime chinois.
Louise Baudet, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À demain.
À demain. À demain.
Absolument. Le reportage est en Cisjordanie ce soir où la circulation est un défi quotidien. Vous allez très vite comprendre avec ce chiffre, 900 checkpoints dans un territoire qui est deux fois plus petit que l'Île-de-France. 900 points de contrôle tenus par l'armée israélienne où les Palestiniens patientent en espérant d'être autorisés à circuler. Donc temps perdu, rendez-vous manqué, comportement déplacé aussi, agression perpétrée par les soldats israéliens sur ces points stratégiques, humiliation régulière, c'est ce que disent les Palestiniens qui ont accepté de raconter. Et le reste, c'est Alice Moreno qui raconte.
Dans un café du centre-ville de Ramallah, Sarah tire une grande bouffée de tabac à chicha. C'est la fin de la journée, l'heure est à la détente, mais chaque matin, elle se réveille avec la même angoisse.
La première question que je me pose le matin, c'est de savoir si les checkpoints sont ouverts.
Elle consulte chaque jour les boucles de messagerie WhatsApp ou Telegram où les automobilistes palestiniens partagent l'état des checkpoints, ouverts, fermés, saturés, selon le bon vouloir de l'armée israélienne qui les contrôle.
En plus du temps perdu, de l'attente et des retards, les soldats veulent surtout montrer qu'ils ont le contrôle sur nos vies. Ils n'ont pas juste le contrôle sur notre temps, mais veulent nous envoyer un message. Ils disent « Nous avons le contrôle sur votre liberté. Quand tu rentres, quand tu sors, c'est nous qui décidons. »
Taher, 34 ans, raconte l'ascendant des soldats sur les Palestiniens. Il est aussi l'un des rares à oser mentionner les abus de pouvoir qui se traduisent parfois par des agressions physiques.
Il y a trois semaines, un checkpoint près de Naplouse, ils m'ont contrôlé, ont vu que mon frère était mort en martyr, que j'étais moi-même un ancien prisonnier, et aujourd'hui un journaliste. Ils ont vu rouge, m'ont fait sortir de la voiture, emmené dans une salle pour me fouiller et m'ont frappé à plusieurs reprises dans les parties génitales. Un soldat a serré très fort mes testicules. C'était tellement humiliant. Je ne pouvais rien faire.
Il sait que son statut d'ancien prisonnier devenu journaliste attise l'animosité des soldats, un profil qui n'a toutefois rien d'exceptionnel. Selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, entre 800 000 et 1 million de Palestiniens ont été détenus dans les prisons israéliennes ces dernières décennies. C'est donc une part importante de la population. Au checkpoint, Taher dénonce un problème bien plus large que son seul cas.
Ce n'est pas parce que je suis journaliste, seulement parce que je suis palestinien. Cela même avant le 7 octobre et la montée de la violence. Nous sommes menacés en premier lieu car nous sommes palestiniens.
Désormais, il envisage chaque trajet avec angoisse.
C'est une angoisse extrême. Dès que je sais que je dois quitter Ramallah pour le travail, je me demande quel checkpoint emprunter et comment me comporter avec les soldats. De manière générale, c'est vraiment une grosse pression.
Un stress permanent que partage Asma, une jeune palestinienne de Jérusalem, qui passe régulièrement le checkpoint de Qalandia, le plus important de Cisjordanie.
Les soldats hommes essayent d'utiliser leur pouvoir pour humilier les femmes en particulier. Ça m'est arrivé. Une fois, je traversais le checkpoint et un soldat m'a sifflé. Une autre fois, je présentais ma pièce d'identité quand le soldat a décidé de me faire un clin d'œil et se mordre la lèvre. Puis, il s'est mis à rire avec un autre soldat. Et moi, je ne peux rien faire.
Énième humiliation, aux abords des points de contrôle, les colons israéliens ont tagué un message que l'on retrouve un peu partout sur les routes de Cisjordanie.
À chaque checkpoint, ils ont écrit « la Mostakbal », ce qui signifie « pas de futur » en arabe, pour qu'on abandonne.
De son côté, l'armée israélienne assure qu'elle est prête à mener des enquêtes si des comportements inappropriés de soldats lui sont signalés.
Alice Moreno pour le reportage en Cisjordanie, merci beaucoup. Juste après, c'est Guillaume Audat qui va chercher l'actu internationale sous les radars.
Et on ira notamment au Nigeria où kidnapper n'est plus simplement un crime, mais une industrie.
Et la BO du Monde et Cyril Sauvageau.
Bonsoir, je vous emmène en Louisiane, 20 ans après l'ouragan Katrina. La scène musicale de la Nouvelle-Orléans reprend des couleurs, mais reste très marquée par la catastrophe.
Le temps de faire une escale After Dark avec Tito et Tarantula, souvenir de 96. Souvenir de Salma Hayek aussi, pour ceux qui ont une grosse mémoire du film Une nuit en enfer. Et Tarantula, After Dark sur France Inter et dans Un jour dans le monde. L'actualité internationale passe sous les radars, rattrapée au vol par Guillaume Audat. Donc
Alors ce qu'on entend, Guillaume, c'est une voix sud-coréenne, un morceau de K-pop à destination de la population nord-coréenne, mais c'est de l'histoire ancienne.
Oui, c'est la fin d'une guerre psychologique, en tout cas pour le moment, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Séoul vient officiellement d'interrompre sa propagande en direction de son voisin autoritaire. Ça prenait la forme d'émissions de radio pro-démocratie, un peu comme la vôtre, Fabienne, mais ponctuée de pop coréenne, la fameuse K-pop, totalement interdite par Pyongyang. Tout cela a été diffusé alors, essentiellement sur les ondes, écouté clandestinement, mais également depuis l'année dernière via des haut-parleurs puissants que l'armée sud-coréenne avait installé le long de la frontière et qui crachait ces haut-parleurs, cette fréquence voix de la liberté dans les moments de friction entre les deux pays, une tactique employée depuis 1962 pour encourager la population nord-coréenne à se soulever. Ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, en 2025, eh bien, le nouveau président sud-coréen joue la détente, veut apaiser les tensions militaires avec son voisin nucléaire. Mais pour l'heure, Kim Jong-un, si j'ose dire, fait la sourde oreille. Il n'est pas intéressé, dit-il, par la reprise du dialogue.
Nigeria is at war.
Plongez au Nigeria maintenant, dans un pays où le kidnapping est une industrie.
Voilà, et ce que l'on vient d'entendre, hein, ce sont de très lourds affrontements entre l'armée régulière et des gangs puissants, structurés, entièrement tournés sur la prise d'otages, le kidnapping. Ça n'est plus seulement un crime là-bas, c'est une industrie en effet extrêmement lucrative qui mine la réputation de ce géant d'Afrique qu'est le Nigeria, 220 millions d'habitants, première économie du continent, où en une année, plus de 4700 personnes ont été enlevées, un business à 1 million de dollars florissant. Et autant de billets qu'on voit exhibés sur les réseaux sociaux par de très jeunes hommes, de plus en plus nombreux. C'est un rapport nigérian qui révèle ces chiffres ahurissants et qui traduisent un glissement sociétal très inquiétant. Le kidnapping, dit cette étude, est l'un des moyens les plus rapides de se procurer de l'argent, surtout quand vous avez sous la main un juge, une vedette ou un politique. C'est faux, c'est malveillant, rétorque le gouvernement, mais qui tout de même met les gros moyens pour endiguer le phénomène.
Et puis la Finlande abandonne la svastika sur les drapeaux de son armée de l'air.
Voilà, et raison officielle avancée par le ministère de la Défense de ce pays, de l'Union Européenne. Il est sage, Fabienne, il est sage de vivre avec son temps.
Blague.
La svastika, on a évidemment tous en tête ce que c'est. Au départ, c'est un symbole bouddhiste, détourné dans les années 1930 par les nazis, et qui en ont fait leur emblème, la croix gammée au service d'une idéologie raciste, totalitaire, antisémite. Eh bien, cette croix gammée, figurez-vous qu'on l'a retrouvée cette année encore, en blanc et en bleu, sur les drapeaux de cette armée de l'air finlandaise. Elle y est apposée depuis l'indépendance du pays en 1917, et donc bien avant que les nazis ne s'en soient emparés. Alors vous savez que la Finlande, elle est entrée dans l'OTAN en 2023, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, laquelle Russie, je cite, veut dénazifier qui ? L'Ukraine. La Russie, elle a aussi 1300 km de frontière avec la Finlande, donc inutile de donner de mauvais arguments à un pays menaçant, et puis on peut se le dire aussi, ça faisait quand même mauvais genre. Voilà, aujourd'hui le symbole de l'armée de l'air finlandaise, c'est un aigle. C'est nettement plus consensuel. Vous préférez, hein, Fabienne?
Comme vous dites, mais cela dit, j'ai été voir. Et du coup, je me suis dit, c'est pas vrai. Eh ben si, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Allez Guillaume, à demain. Le lundi, allez. C'est Cyril Sauvageau qui écoute le son que fait la planète en tournant. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
À la Nouvelle-Orléans, Cyril, ce soir, 20 ans, donc presque jour pour jour après le passage de l'ouragan Katrina. Le traumatisme reste profond en Louisiane, mais la scène musicale a repris des couleurs. Et plusieurs artistes ont décidé de commémorer ces 20 ans comme il se doit, donc en musique.
Et le plus célèbre d'entre eux s'appelle John Baptiste, une des grandes voix afro-américaines du moment. Lui-même a vécu de très près l'ouragan Katrina. Il n'avait pas 20 ans à l'époque quand il s'est retrouvé, évacué et relogé avec ses proches au Texas. Sa maison familiale emportée comme bien d'autres par la montée des eaux. Un traumatisme qui a rendu John Baptiste particulièrement sensible au sujet du changement climatique. Pétrichor, c'est le titre de cette chanson tirée du nouvel album de John Baptiste. Le pétrichor, c'est l'odeur caractéristique que dégage la terre après la pluie. Le chanteur pianiste a fait du chemin depuis cette catastrophe, mais il mélange ici souvenirs personnels et propos politiques pour dire sa colère et pour appeler à l'action au moment où Donald Trump relance à tout va les énergies fossiles.
Autre figure locale, Cyril, qui a voulu à sa façon marquer ce 20e anniversaire, le phénomène Trombone Shorty.
Lui aussi faisait partie des sinistrés en 2005. Lui non plus n'a pas pu retourner vivre dans son quartier natal après l'ouragan, mais il reste très très attaché à la Nouvelle-Orléans. Troy Andrews, alias Trombone Shorty, a voulu rendre hommage à la renaissance de sa ville et de sa scène musicale avec un nouveau disque plein de cuivre rutilant. Trombone Shorty a grandi dans le quartier de Tremy à New Orleans, entouré de fanfares et de parades de rue, comme le veut la tradition locale. La musique est partout et accompagne les moindres instants de la vie. Tout cela a nourri, inspiré l'univers de Trombone Shorty, qui est devenu un grand nom de la scène jazz internationale.
Et ce quartier emblématique de la Nouvelle-Orléans a même fait l'objet d'une série télé, géniale série.
La série Tremé, signée David Simon, le créateur de The Wire. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir cette formidable série HBO, il n'est pas trop tard. 4 saisons, une quarantaine d'épisodes pour raconter sans esbroufe le quotidien des habitants de ce quartier après l'ouragan. To know he's coming in peace and love from Congo Square. Oh, peace. Peace. L'histoire de ces musiciens qui essaient de reconstruire leur vie livrée à eux-mêmes par les pouvoirs publics vaut tous les documentaires sur l'après-Katrina. C'est très fort, c'est criant de vérité et ça permet de comprendre combien la musique a contribué à la résilience de cette ville dévastée et a permis aux habitants de tenir et de retrouver leur fierté. La fanfare un peu brinque-ballante qu'on entend ici, c'est le Free Agents Brass Band qui incarne bien cette renaissance. Cet orchestre, il a été formé par des musiciens sinistrés de Katrina qui ont pu, eux, revenir dans leur ville dans les mois qui ont suivi l'ouragan. Ils apparaissent dans la série Tremé et leur album, enregistré à l'époque, vient tout juste d'être réédité. 20 ans plus tard, une nouvelle génération d'artistes locaux continue en tout cas de documenter la transformation de la Nouvelle-Orléans et d'interroger son avenir. Ici, le rappeur Flagboy Giz s'en prend à la gentrification galopante de sa ville, accélérée, dit-il, par la reconstruction. Gentrified the little land y'all own. Gentrified to all the culture gone. On North Claiborne, they had big old trees. Gentrifying a city. Merci Cyril Sauvageau pour cette plongée dans New Orleans et autour, 20 ans après Katrina.